E-radio présente Enquête d'Europe.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Océane, étudiante en Master 2 Sciences Politiques de l'Europe. Je suis en compagnie d'Élodie Bonnet, elle-même étudiante en Master Sciences Politiques de l'Europe. Aujourd'hui, nous parlerons dans notre émission des différentes politiques énergétiques menées par deux pays, la France et le Royaume-Uni. Pour cela, nous accueillerons Pierre Bocquillon, chercheur et chargé de cours en politique et politique de l'Union européenne, et Damien Renaud, administrateur du réseau Sortir du nucléaire.
Donc, afin de faire un petit point sur notre sujet qui est le comparatif entre la France et le Royaume-Uni. Donc, la France, elle favorise le développement de l'énergie nucléaire dans l'objectif de sortir des énergies fossiles et d'atteindre la neutralité carbone en 2050. La production d'énergie en France, elle repose sur un mix énergétique avec pour ambition 40% de la production d'électricité assurée par les énergies renouvelables en 2030, la fermeture des dernières centrales à charbon sur le territoire national et 50% de l'électricité nucléaire dans le mix électrique en 2035. Et de son côté, le Royaume-Uni, pourtant largement dépendant des énergies fossiles, a su drastiquement limiter cette source d'énergie et basculer vers les énergies renouvelables. En 2020, les énergies renouvelables, elles assurent un peu plus de 40% de la production électrique du pays, contre 35% pour le gaz et 16% pour le nucléaire. Le Royaume-Uni, il souhaite décarboner son système électrique à l'horizon 2035 par le biais des énergies renouvelables et du nucléaire, ainsi que sortir du charbon d'ici 2024. Et finalement, pour évoquer le lien qu'entretiennent les deux pays, bien que suite au Brexit et donc à la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, une coopération autour de l'énergie, notamment du nucléaire, s'organise entre la France et le Royaume-Uni. Donc pour tout d'abord s'intéresser au cas de la France, on peut commencer par se demander pourquoi la France a finalement décidé de rester dans le nucléaire. Et je vais laisser la parole au premier intervenant.
Enquête d'Europe.
Oui, bonjour. Donc en fait, est-ce que la France relance le nucléaire? En fait, c'est pas la France qui relance le nucléaire, c'est en fait un président, donc le président Emmanuel Macron, qui a fait des discours pro-nucléaire et qui compte sur le Parlement pour assurer l'intendance qu'il doit suivre. Donc ces discours, ils ont eu lieu de fin 2020 à fin 2022. Il y a d'abord eu le discours du Creusot en décembre 2020, où il prétend que le nucléaire a de l'avenir, il commence par là, quoi. Il lit le nucléaire civil et le nucléaire militaire. Donc il dit sans nucléaire civil, pas de nucléaire militaire, sans nucléaire militaire, pas de nucléaire civil. Et il affirme unilatéralement, en dehors de toute loi de programmation militaire qui relève du Parlement, que le prochain porte-avions sera à propulsion nucléaire. Voilà, ça c'est son premier discours. Ensuite, il fait un discours à peu près un an plus tard, à peine, discours France 2030 du 12 octobre 2021, où il apporte 1 milliard d'euros pour développer les Small Modular Reactors. C'est des petits réacteurs nucléaires modulaires, c'est-à-dire les réacteurs nucléaires de taille intermédiaire entre les réacteurs de propulsion des sous-marins et puis les réacteurs des centrales nucléaires qu'on a. Ensuite, son discours le plus important sans doute, c'est le 10 février 2022, son discours de Belfort, à l'usine des turbines General Electric avec Alstom, où il indique vouloir de nouveaux EPR. Donc il a dit « Je souhaite que 6 EPR2 soient construits et que nous lancions les études sur la construction de 8 EPR2 additionnels. » Donc EPR2, c'est censé être une évolution des réacteurs EPR qui ont été construits ou qui sont en construction encore aujourd'hui. Et enfin, discours de Saint-Nazaire du 22 septembre 2022, donc c'était lors de l'inauguration du premier parc éolien offshore. Et donc là, il a dit, je cite, hein, « C'est un déploiement à marche forcée d'une stratégie nucléaire qui doit nous permettre de planifier sur les territoires en fonction des concertations, parce que tout ça suppose de l'acceptabilité. »
Voilà. Le développement du nucléaire se fait en adéquation avec le développement des énergies renouvelables, finalement?
Non, puisque la France a été le seul pays à ne pas avoir respecté ses objectifs de production d'énergie renouvelable en 2020. Et donc, pour l'instant, cette volonté présidentielle s'est traduite politiquement que dans la loi d'accélération qui a fait sauter le plafond de puissance du parc nucléaire de 63,2 gigawatts et puis transformer le plafond de production électrique de 2035 de 50% en seuil, quoi, un plancher quelque part.
Mais donc,
au mépris d'un débat public qui avait eu lieu en même temps, quoi. Voilà.
Pourquoi la France, elle est en retard sur les énergies renouvelables par rapport aux objectifs européens?
Parce qu'on ne peut pas en même temps développer les énergies renouvelables et le nucléaire, en fait.
D'accord, c'est un choix qui a été fait.
La France, elle est quand même anti-renouvelable, hein, faut quand même l'avoir en tête. Il y a eu une instruction, par exemple, en septembre 2020 du gouvernement pour passer l'hiver, puisqu'il y a de nombreux réacteurs qui étaient en dépannage suite à corrosion sous contrainte. Dans cette instruction, le gouvernement a indiqué au préfet de ne pas bloquer inutilement les projets éoliens en cours, quoi. Et donc, ça traduit bien qu'il y avait quand même une volonté de freiner ça auparavant. Clairement.
Et donc, on peut maintenant poser une question sur le cas du Royaume-Uni à Pierre Bocquillon. Donc, pourquoi le Royaume-Uni, il a suivi sa propre politique énergétique ?
Bon, la politique énergétique du Royaume-Uni, c'est quand même déjà c'est façonné par le fait qu'il y a des ressources pétrolières et gazières en mer du Nord qui ont été exploitées depuis les années 80, 70, 80 surtout pour le gaz. Donc ça, déjà, ça façonne le mix énergétique. Il y a des ressources, ils les exploitent. Et aujourd'hui, le Royaume-Uni a bien sûr, comme la France, un objectif de neutralité carbone, mais est pas sur une voie de sortir de l'utilisation du gaz. Hein. C'est pas l'objectif. En fait, en ce moment, la stratégie du gouvernement du Royaume-Uni, c'est de miser sur le gaz. Il y a toujours le pétrole. Il y a toujours des nouvelles autorisations qui sont accordées pour utiliser le gaz et le pétrole de la mer du Nord. C'est de miser sur le nucléaire. Donc il y a ce projet, le projet de Hinkley Point, où EDF est impliqué. Et puis il y a une nouvelle tranche qui est prévue aussi dans une centrale qui s'appelle Sizewell C. Donc le nucléaire est une des autres options. Et puis les renouvelables, surtout l'éolien, et en particulier l'éolien offshore. Aujourd'hui, les développements de l'éolien terrestre sont relativement limités. Et il y a un espèce de quasi-moratoire en fait sur le développement de l'éolien terrestre compte tenu des conditions de leur développement. Il y a pas mal d'opposition aussi. Alors que en revanche sur l'éolien offshore, c'est vraiment au cœur de la stratégie du Royaume-Uni, et on a vu depuis la dernière décennie le développement de l'éolien offshore à très grande vitesse, hein, de passer de 3% à 18% de la production d'électricité. Donc c'est très rapide.
Comment on peut expliquer justement cette rapidité d'accession aux énergies renouvelables?
Alors, bah parce qu'il y a une priorité, hein, le gouvernement a misé sur l'éolien offshore. L'éolien offshore, ça a un avantage, c'est que c'est pas sur terre, donc ça crée moins de contestations. Depuis 2010, on a un gouvernement conservateur qui est pas franchement en faveur du renouvelable, et du renouvelable dans le jardin de leurs électeurs qui sont souvent plus affluents, qui sont plus riches, etc., et qui sont assez opposés à avoir des turbines près de leur maison, ou alors un parc solaire. Donc le gouvernement a vraiment misé sur l'éolien offshore. Et il y a un nombre de grosses compagnies aujourd'hui, Iberdrola, Scottish Power, Vattenfall, toutes les grosses compagnies qui développent des parcs autour du Royaume-Uni. Donc il y a beaucoup, c'est une île, il y a beaucoup de côtes. Il y a des possibilités de développer aussi avec des fonds qui sont pas forcément très profonds. Donc il y a des conditions favorables, il y a le gouvernement qui soutient. Et il y a aussi un certain nombre de compétences qui sont réutilisées, si vous voulez. L'offshore, c'était au départ utilisé pour les plateformes offshore de pétrole et de gaz. Et donc certaines de ces compétences aujourd'hui sont mobilisées pour le développement de l'éolien. Donc il y a une grosse croissance, et le Royaume-Uni, qui était souvent très en retard sur les renouvelables, aujourd'hui a une certaine avance sur l'offshore.
Mais justement, comme on l'a évoqué, la France, pour le coup, est assez en retard sur le renouvelable, alors que le Royaume-Uni, lui, le développe massivement. Et donc, les pays européens, ils suivent la même politique du développement des énergies renouvelables. Mais c'est quoi les relations qu'elles entretiennent, la France et le Royaume-Uni, dans le domaine de l'énergie, avant le sommet du 10 mars?
Ouais, alors en fait, faut bien voir que de toute manière, même au sein, donc le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne, donc est plus soumis à la législation européenne comme il l'était en tant qu'État membre. Mais même en tant qu'État membre, de toute manière, les États conservent leur souveraineté en ce qui concerne le choix de leur mix énergétique et de leur mix électrique également. Donc il y a des objectifs européens, mais il y a beaucoup de flexibilité pour les États pour choisir leur propre politique. Et il y a une des raisons, c'est que chaque État membre ou non-État membre a ses propres infrastructures, ses propres ressources, ses propres traditions, ses propres visions de la politique énergétique, et sont assez jaloux de ça. Donc le Royaume-Uni, la France, ont conduit des politiques énergétiques différentes, façonnées par leurs ressources, dans le cas du Royaume-Uni, façonnées par les traditions, les infrastructures qui existent, comme le nucléaire. Aujourd'hui, il y a un alignement entre le Royaume-Uni et la France en ce qui concerne le nucléaire. Les deux pays sont deux pays qui veulent développer le nucléaire. La France redévelopper le nucléaire pour compenser les fermetures de centrales, etc., et maintenir une certaine avance en la matière. Et puis au Royaume-Uni, il y a aussi le gouvernement conservateur mise aussi sur le nucléaire. Donc de ce point de vue-là, il y a des possibilités de coopération, puis la coopération, elle se passe en pratique entre les compagnies soutenues par les gouvernements, le fait que Eclipse est développé par EDF, voilà, donc il y a des intérêts communs de ce point de vue-là. Sur le renouvelable, il y a aussi une certaine coopération qui se développe, pas simplement entre la France et le Royaume-Uni, mais entre le Royaume-Uni et les pays qui sont membres du Conseil de coopération. Sur l'offshore, par exemple, il y a eu des discussions, il y a un mémorandum qui a été signé à la fin de l'année, en fin de 2002, donc il y a des intérêts convergents ici aussi. Il y a un certain nombre d'intérêts convergents aussi en termes d'échanges et de coopération sur les échanges d'électricité. Le Royaume-Uni faisait partie du marché intérieur de l'électricité, n'en fait plus. Il y a eu des accords qui ont été signés dans le cadre du Brexit, et par exemple... Dans le passé, la France exportait beaucoup de son électricité nucléaire aux voisins, et ses voisins, ça incluait le Royaume-Uni. Aujourd'hui, on est dans une situation où, comme il y avait beaucoup de centrales qui ont été fermées pour maintenance en France, de centrales nucléaires, c'est le Royaume-Uni qui exporte de l'électricité à un certain nombre de pays, mais à la France en particulier, grâce aux interconnexions qui existent. Donc il y a aussi un intérêt de coopération sur les échanges d'électricité.
Pourquoi la France fait importer de l'énergie, justement ?
Il y a eu tout un nombre de centrales qui ont dû être arrêtées pour maintenance, comme en parlait mon collègue. Et à ce moment-là, la France a dû importer de l'électricité, en fait, pour satisfaire sa demande. Donc, les interconnexions, c'est bien pour ça, ça offre pas mal de flexibilité, mais c'était un petit peu un tournant dans le sens où, traditionnellement, c'est toujours la France qui exportait. Et là, la France s'est retrouvée à importer de l'électricité. Et le Royaume-Uni a exporté de l'électricité. Ce qui n'était pas la tendance dans le passé. Donc ça pointe les incertitudes autour du nucléaire, de la question de l'extension de la vie des centrales, la question des problèmes de corrosion, de maintenance, de gestion des risques, etc. Et des questions de sécurité énergétique que ça soulève, en fait.
Et donc, suite au sommet du 10 mars dont on a parlé tout à l'heure, comment elles sont envisagées les relations entre la France et le Royaume-Uni en matière de production énergétique ? Ça va continuer au niveau des échanges ? Ça va renforcer ?
L'État britannique, il s'est substitué au chinois CGN dans le projet Sizewell C qui a été évoqué. Donc actuellement, c'est 50-50 avec EDF. Et donc les deux actionnaires, État britannique et EDF, ils cherchent des investisseurs pour réduire leur part à 20% chacun dans ce projet. Mais les investisseurs, ils ne se bousculent pas au portillon. Ils sont sans doute sceptiques sur la capacité du projet à produire un mégawattheure à un coût inférieur à celui à partir duquel le surcoût est pris en charge par l'État. Le projet de Sizewell C, il est estimé à 20 milliards de livres, alors que le projet d'Hinkley Point C, projet précédent porté par EDF actuellement en cours de construction, il est déjà estimé à 25-26 milliards de livres. Donc, en fait, c'est quand même assez difficile ce qui se passe au Royaume-Uni sur le nucléaire. Il y a du nouveau nucléaire au Royaume-Uni que parce que EDF est prêt à faire faillite pour ça. C'est quand même assez incroyable. Il y a déjà eu des essais avec d'autres industriels comme Hitachi General Electric. Donc eux, c'est la technologie réacteur à eau bouillante, donc Fukushima. Donc ça n'a pas marché. Ils ont abandonné. Il y a eu Toshiba, donc Westinghouse, réacteur à eau sous pression. Donc, l'industriel historique du réacteur à eau sous pression qui a aussi renoncé. Donc voilà où on en est. Donc en fait, on est dans une situation où le coût de production du kilowattheure nucléaire, il est plus du tout compétitif. Et donc même les prix indicatifs doivent s'aligner à la baisse. Donc Hinkley Point, c'était 92,5 livres par mégawattheure. Là, Sizewell 40-60, et du coup, plus personne n'est intéressé pour suivre. Et il y avait aussi un projet de SMR. Au nord de la côte des Pays de Galles, donc à Wilfa, mais on n'entend plus parler. Donc dans l'actualité là, des relations entre Royaume-Uni et France, bah, c'est de boucler Sizewell C, mais ils vont avoir du mal à trouver des gens pour mettre de l'argent. Et les fonds de pension, etc. ne sont pas intéressés, comme je disais. Et puis peut-être aussi des SMR, soit en plus, soit à la place du projet qui a l'air de ne pas avancer au nord du Pays de Galles, à Wilfa. Voilà la situation. Donc en fait, le Royaume-Uni, pour moi, c'est un pays... pro-nucléaire, mais qui va devoir renoncer à ses ambitions nucléaires devant l'évidence de la compétitivité très forte des énergies renouvelables, en fait.
Oui, donc c'est un manque de financement qui fait qu'il ne peut pas atteindre ses objectifs en matière de nucléaire.
Oui, de toute façon, son objectif en matière nucléaire, c'était 24 gigawatts, 25% de la production électrique à horizon 2050, c'est-à-dire même moins que le maximum historique qui a été atteint au Royaume-Uni, qui est de 26% du mix électrique en 1997. à mon avis, ils arriveront à se passer du nucléaire. En fait, aujourd'hui, faut bien avoir en tête qu'aujourd'hui, il y a 9 réacteurs au Royaume-Uni. Il y en a 8 qui doivent fermer d'ici 2030. C'est des réacteurs de technologie britannique. Et puis, le 9e, c'est un réacteur à sous pression, le dernier construit en 95 et qui a peut-être tourné jusqu'en 2035, voilà, voire plus, je ne sais pas. Donc, à terme, au Royaume-Uni, il y a un réacteur parmi les réacteurs qui fonctionnent actuellement, et puis peut-être les deux d'Hinkley Point. Et au-delà, ça paraît quand même assez incertain. En fait.
Est-ce que ça peut lui laisser l'opportunité de développer justement les énergies renouvelables et d'arrêter le recours aux énergies fossiles ?
Bien sûr, en fait. La dynamique au niveau mondial est du côté des énergies renouvelables. On voit les capacités en solaire, en éolien, etc. Et se développe, c'est là qu'il y a la dynamique. Et donc l'électricité de demain, elle sera renouvelable quoi, sans problème. Quoi. Il n'y a que les pays qui freineront des cas de fer, comme la France, qui se retrouveront avec des vieux réacteurs et avec les pollutions qui vont avec et les risques qui vont avec aussi. Voilà.
Et quand on regarde les courbes de prix, ce qu'on voit, c'est que le coût du nucléaire augmente, comme mon collègue expliquait, et le coût du renouvelable diminue sur un certain nombre de technologies. Donc c'était particulièrement frappant sur le photovoltaïque, mais c'est le cas aussi sur l'éolien. Et l'offshore est en train de se développer également. Donc on a deux courbes qui se croisent, si vous voulez. Donc il y a une technologie qui est de moins en moins compétitive quand les autres le sont de plus en plus.
Et pour revenir sur le sommet du 10 mars, le Premier ministre britannique, il énonçait lors d'une conférence de presse à Paris, la France et le Royaume-Uni travaillent ensemble pour que plus jamais des gens comme Vladimir Poutine ne puissent armer notre sécurité énergétique. Est-ce que vous avez des réflexions, des commentaires à faire sur ça ?
On peut l'interpréter par le fait que le Royaume-Uni exporte aujourd'hui plus de gaz au continent, donc pas forcément à la France, mais au marché gazier européen, dans le cadre de la guerre en Ukraine. Donc ça permet à certains pays de réduire leur dépendance au gaz russe. Après, le principal exportateur de gaz pour la plupart des pays européens, c'est pas le Royaume-Uni. Aujourd'hui, le gaz naturel liquéfié s'est beaucoup, beaucoup développé déjà avant la guerre en Ukraine, mais aussi pendant la guerre en Ukraine. Et aujourd'hui, c'est les États-Unis qui sont la principale source de gaz pour beaucoup de pays. Donc, le Royaume-Uni contribue à réduire la dépendance d'un nombre de pays, mais bon, les ressources du Royaume-Uni sont en train de se réduire fortement depuis un moment, donc c'est pas les ressources du Royaume-Uni qui vont continuer à alimenter la demande en gaz européenne sur le moyen ou long terme. Mais de ce point de vue-là, oui, on peut voir que le Royaume-Uni contribue à aider certains pays européens à faire face à la guerre en Ukraine et son impact sur les approvisionnements russes.
Et donc concernant le nucléaire, définir une ambition commune entre la France et le Royaume-Uni, ça peut aider sur la scène européenne justement à limiter les importations.
Ouais, après, le nucléaire, c'est une histoire de deux gouvernements qui soutiennent leur industrie, leurs champions nationaux. Enfin, le gouvernement français essaye de soutenir les intérêts de EDF au Royaume-Uni, puisque le Royaume-Uni a un marché pour EDF. Donc, de ce point de vue-là, il y a une coopération. Après, le Royaume-Uni n'est plus dans l'Union européenne et de toute manière, la question du nucléaire au niveau de l'Union européenne, c'est que ça divise complètement les pays européens. Donc, il n'y a en fait pas beaucoup de coopération. Chacun fait plus ou moins ce qu'il veut. Il y a une coopération dans le cadre de l'Euratom du point de vue des approvisionnements en combustible pour la régulation ou pour les questions de sécurité. Mais en termes de place du nucléaire dans le mix, il n'y a pas beaucoup de coopération. C'est plutôt quelque chose qui divise. Il y a des pays comme l'Autriche qui sont constitutionnellement anti-nucléaires, et il y a des pays comme la France qui sont les pays les plus nucléarisés au monde.
Donc, oui. Donc il y a une forme de consensus au niveau des énergies renouvelables. En revanche, au niveau des énergies fossiles et nucléaires, ça divise totalement au niveau de l'Union européenne.
Oui, sur le nucléaire, il y a un vrai clivage, clairement. Et donc, avant que le Royaume-Uni quitte l'Union européenne, il y avait un clivage 14-14, je ne vais pas être bêtise, et là, ça va basculer plus renouvelable, mais bon, la France s'est jouée de son influence, quoi. Elle s'allie avec des pays, notamment les pays, beaucoup de pays de l'Est, plus la Finlande, donc les pays de l'Est comme la Hongrie, la Pologne, la République tchèque, etc., pour défendre le nucléaire. Et puis, effectivement, en face, il y a l'Autriche, l'Allemagne, l'Espagne, l'Irlande, pays baltes, etc., ils sont plutôt contre le nucléaire.
Une dernière question concernant le Royaume-Uni. Est-ce qu'on peut dire que le Brexit a modifié les politiques énergétiques menées par le Royaume-Uni ?
Il n'y a pas un changement fondamental de la stratégie britannique après le Brexit. Les objectifs n'ont pas vraiment changé. Le Royaume-Uni n'est pas revenu sur ses objectifs climatiques, par exemple. Le choix de l'offshore, du nucléaire, du gaz et de l'hydrogène, c'était déjà quelque chose qui était présent avant. Donc, de ce point de vue-là, le Brexit n'a pas fondamentalement changé les grands paramètres, les grandes structures de la politique énergétique. Après, ça crée un certain nombre de challenges, par exemple en termes de coopération sur les échanges d'électricité, puisque le Royaume-Uni n'est plus dans le marché intérieur de l'électricité, coopération sur le développement de l'offshore, de l'éolien offshore en mer du Nord. Ça crée tout un certain nombre de challenges qui sont assez techniques pour le Royaume-Uni, en fait. C'est ça le paradoxe, c'est le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne, mais pas pour des questions énergétiques. Et sur les questions énergétiques, le Royaume-Uni est plutôt demandeur d'une coopération. Donc, ils essayent un petit peu de trouver des façons de continuer la coopération après le Brexit. Et c'est aussi une carotte que l'Union européenne utilise pour faire pression sur d'autres dossiers. Donc, quand on regarde l'accord entre l'Union européenne et le Royaume-Uni qui a été signé, on voit qu'il y a un lien qui a été établi entre les négociations sur les questions de pêche et l'énergie, avec l'Union européenne qui utilise l'énergie pour faire pression sur la pêche. La France était derrière tout ça aussi. Donc en fait, il y a plus une demande en fait de coopération du point de vue du Royaume-Uni et un intérêt commun de ce point de vue-là. Ce serait plutôt une de ces... C'est pas vraiment un secteur de politique publique qui divise tant que ça en fait. Il y a plutôt une demande de coopération.
D'accord. Eh bien, merci beaucoup pour ces éclairages concernant les comparaisons sur les politiques énergétiques entre la France et le Royaume-Uni. Est-ce que l'un de nos deux intervenants a un mot de conclusion ?
Entre les deux pays, il y a une chose qu'on n'a pas dit, c'est que EDF est installé en Royaume-Uni via British Energy, qu'il a racheté très cher en 2009, c'est au cours des comptes qu'il l'a dit d'ailleurs, et que ça fait partie des pertes d'EDF, quoi. C'est bien un rachat de British Energy, une clé point, etc. Il me semble que la réalité des prix, des coûts, fera que c'est les énergies renouvelables qui vont l'emporter à la fin. Quoi. Voilà. En attendant, on va en supporter les pertes, je suppose.
D'accord. Eh bien, merci beaucoup pour votre intervention. Et l'émission de radio va prendre fin et je tiens à vous remercier une dernière fois pour d'avoir voulu y participer et d'avoir accordé du temps pour ça. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
C'était Enquête d'Europe. Une émission animée par les étudiants en Master 2 Sciences Politiques de l'Europe de l'Université de Nantes. Enquête d'Europe à retrouver dès maintenant en podcast sur euradio.fr.